comprendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصلنا وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité, en ce lundi 28 octobre 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran donnera une réponse appropriée à l'attaque israélienne, a souligné le président iranien Massoud Pezeshkian. Au moins 21 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes contre le sud du Liban. Et au Mali, l'armée annonce avoir tué une quarantaine de terroristes dans le centre du pays. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que l'Iran ne cherchait pas la guerre, mais qu'il donnerait une réponse appropriée aux récents actes d'agression d'Israël. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous défendrons les droits de notre nation et de notre pays. Nous donnerons une réponse appropriée à l'agression du régime sioniste, a ponctué le président Pezeshkian lors d'une séance du cabinet dimanche 27 octobre. Il a averti que la poursuite des actes d'agression et des crimes israéliens ferait monter les tensions et a ajouté que les États-Unis incitent Israël à commettre de tels crimes. Pezeshkian a fait cette déclaration un jour après que le régime sioniste attaquait plusieurs installations militaires iraniennes, tuant 4 militaires, des forces armées et un civil. Il a ajouté que la nation iranienne et l'ordre islamique ont prouvé au cours des 45 dernières années qu'ils ne céderont jamais à aucun agresseur. Il a été prouvé au monde que le régime israélien commet des crimes, a-t-il indiqué. Le président a critiqué les partisans d'Israël, en particulier les États-Unis, qui prétendent défendre les droits de l'homme et la liberté, tout en restant silencieux face au massacre de dizaines de milliers de femmes et d'enfants palestiniens par le régime israélien. Aujourd'hui, les consciences éveillées dans le monde détestent le régime sioniste et les crimes de ce régime brutal, a souligné Pezeshkian, avant d'émettre l'espoir que l'Iran surmonte avec succès toutes les crises. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, et son homologue iranien, Saïd Abbas Sarachi, ont discuté des derniers développements relatifs aux attaques israéliennes contre l'Iran, a indiqué dimanche le ministre égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué. Samedi soir, au cours d'un entretien téléphonique, M. Abdelati a renouvelé sa condamnation de toutes les mesures et politiques unilatérales ou provocatrices qui menacent la sécurité et la stabilité de la région, selon le communiqué. Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné la nécessité de désamorcer la situation, d'intensifier les efforts de retour au calme et d'empêcher une guerre régionale qui aurait des conséquences désastreuses. Il a également passé en revue les efforts déployés par l'Égypte en coordination avec le Qatar et les États-Unis afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, de garantir l'entrée libre et inconditionnelle de l'aide humanitaire et médicale à Gaza et d'obtenir la libération des otages et des prisonniers. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la communauté internationale devait prendre des mesures immédiates et efficaces pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban afin d'empêcher la guerre de se propager à d'autres parties de la région, selon un communiqué publié par le ministère iranien des Affaires étrangères. Concernant la dernière attaque israélienne contre des sites iraniens, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que son pays n'hésiterait pas à donner au moment opportun une réponse décisive et proportionnée à toute attaque contre son intégrité territoriale et sa sécurité. Au Liban, les frappes israéliennes ont tué au moins 21 personnes dans le sud. Au moins 9 personnes ont été tuées et 38 autres blessées dans une frappe à Red Saïda, près de la ville portuaire de Saïda, indiqué dimanche le ministère libanais de la Santé. 7 personnes, dont une infirmière et trois secouristes, ont été tués dans le village d'Ain Baal, dans le sud du pays. Cinq autres ont perdu la vie dans une frappe de drones israéliennes à Burj al-Shimali, près d'une école affiliée à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Une autre frappe aérienne israélienne a détruit le dernier étage d'un immeuble de trois étages à Retzaïda, à environ 60 km de la frontière de la Palestine occupée, a rapporté l'AFP. Des bâtiments voisins ont également été endommagés. Le secteur est devenu bondé de personnes fuyant d'autres régions du sud du Liban depuis qu'Israël a lancé son offensive contre le Hezbollah en septembre. Selon certaines informations, Israël n'a émis aucun avertissement demandant l'évacuation de la zone avant sa frappe. Israël cible le Liban depuis octobre 2023, après que le Hezbollah a annoncé l'ouverture d'un front de soutien en réponse au génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza, sur des dizaines de milliers de Palestiniens. Au moins 2504 Libanais ont été tués et 11666 autres blessés dans des attaques violentes du régime sioniste contre le pays. Le Hezbollah a riposté à l'agression israélienne en lançant de nombreuses opérations de représailles contre les cibles israéliennes en Palestine occupée. Cinq soldats israéliens ont été tués par le mouvement de résistance islamique Hezbollah dans le sud du Liban. L'armée israélienne a indiqué dimanche 27 octobre que cinq réservistes israéliens du bataillon V-207 de la brigade Alon ont été tués samedi lors de combats dans le sud du Liban. Les décès survenus samedi portent à 37 le nombre de morts parmi les troupes d'occupation israéliennes dans le sud du Liban depuis le début de l'incursion terrestre le 30 septembre. Les médias du régime ont déclaré que les troupes avaient été surprises par trois combattants du Hezbollah cachés dans un bâtiment. Les combattants de la résistance libanaise ont lancé des grenades et tiré en direction des soldats israéliens lorsqu'un incendie s'est déclaré, provoquant l'effondrement du bâtiment sur eux. Quatre soldats et un officier israélien ont été grièvement blessés dans l'incident et neuf autres ont été légèrement et modérément blessés, ont rapporté les médias israéliens. L'armée israélienne a également annoncé dimanche la mort d'un sergent-chef âgé de 22 ans. Il est décédé des suites de blessures subies lors des affrontements dans le nord de Gaza. Une attaque de drone a visé dimanche la base américaine d'Al-Tanf en Syrie. La base américaine à Al-Tanf, une zone située à la frontière entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, a été attaquée dimanche soir, ont indiqué des sources à Al-Mayadin. Parallèlement, les forces d'occupation américaines sur le site pétrolier d'Al-Omar à Deir ez-Zor ont été prises pour cible. Le correspondant d'Al-Mayadin a rapporté qu'une puissante explosion a été entendue dans la zone. Des hélicoptères militaires américains ont également été vus survoler la zone. Le 22 octobre, une salve de six roquettes a ciblé la base d'occupation américaine du champ gazier de Konoka Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie. Une source sur place a déclaré à Al-Mayadin que quatre roquettes ont atteint leur cible à l'intérieur de la base militaire américaine dans la banlieue de Deir ez-Zor. La source a également confirmé que de fortes explosions ont été entendues à l'intérieur de la base militaire américaine. Selon la source, les roquettes visaient principalement la station radar de la base du champ gazier de Konoko. Peu de temps après, le correspondant d'Al-Mayadin a rapporté que les forces américaines ont mené des frappes depuis le champ gazier de Konoko, ciblant les sept villages à l'est de l'Euphrate qui sont sous le contrôle du gouvernement syrien. Les frappes américaines ont ciblé les villages de Adla, Marat, Hashom et la périphérie de Huwaijat Saker et Huwaijat al-Muraya, dans la banlieue de Deir ez-Zor. Les forces armées yéménites ont organisé dimanche des exercices pour se préparer à repousser les attaques ennemies sur divers terrains, tout en poursuivant leurs opérations en mer Rouge en représailles à la guerre génocidaire du régime israélien au Liban et à Gaza. Dans le cadre de leur soutien aux Palestiniens, aux Libanais, Les unités navales et terrestres des forces armées yéménites ont organisé dimanche une série d'exercices militaires tactiques le long de la côte ouest. La manœuvre a simulé 4 vagues d'attaques à grande échelle du régime sioniste sur le Yémen auxquelles ont réagi les forces participant à ces exercices. Des navires de guerre ennemis et des vaisseaux se préparant à un débarquement hostile sur la côte ont été inclus dans cet exercice militaire. La manœuvre qui a été menée dans divers environnements tels que la côte, les milieux urbains, le désert et les montagnes, a également impliqué les forces de mobilisation générale pour défendre le territoire yéménite contre l'ennemi fictif. Depuis octobre 2023, et le déclenchement de la guerre dévastatrice du régime sioniste contre la bande de Gaza, les Yéménites ont déclaré leur soutien ouvert aux Palestiniens. De plus, ils ont réitéré leur soutien au moment de résistance libanais Hezbollah. Le Yémen a déclaré que les attaques de la résistance yéménite contre des cibles israéliennes ne cesseront pas tant que le régime poursuivra son agression contre la bande de Gaza et le Liban, affirmant que les combattants d'Ansar Allah n'hésiteront pas à mobiliser toutes leurs capacités militaires contre Israël. Les forces armées maliennes FAMA ont annoncé dimanche avoir tué une quarantaine de terroristes lors de 2 opérations de recherche et de neutralisation menées dans le centre du Mali contre des groupes armés terroristes. La première opération a eu lieu le 24 octobre à Ungel, cercle de Nianon, région de Ségou, où une base ennemie a été détruite avec la neutralisation d'une trentaine de terroristes ainsi que la saisie d'armes, de munitions et de 24 motos, ont expliqué les FAMA dans un communiqué. Menée le 25 octobre, la seconde opération a permis d'éliminer une dizaine de terroristes avec la récupération de divers matériels, y compris des pick-up et des motos, ajoute le communiqué. Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme qui se manifeste par des insurrections indépendantistes, des incursions des extrémistes et des violences intercommunautaires ayant fait beaucoup de victimes et de déplacés. L'armée sud-coréenne s'est avérée être le principal de l'incursion d'un drone dans la capitale de la République populaire démocratique de Corée, RPDC, a rapporté lundi l'agence de presse KCNA. Cette intrusion visait à disperser des tracts anti-RPDC, a rapporté KCNA, citant les résultats de l'enquête finale publiée un jour plus tôt par un porte-parole du ministère de la Défense nationale de la Corée du Nord. Cette conclusion a été tirée par un groupe d'enquête conjoint composé du ministère de la Défense nationale et du ministère de la Sécurité de l'État, ainsi que d'autres institutions spécialisées concernées, après une analyse complète des plans de vol et des journaux obtenus à partir du module de contrôle de vol démonté à partir des restes d'un drone qui s'est écrasé. Le drone a dispersé les tracts politiques au-dessus de la zone située entre le bâtiment du ministère des Affaires étrangères de la RPDC et une station de métro de Pyongyang appelée Songri et au-dessus du bâtiment du ministère de la Défense nationale, respectivement, selon KCNA. Si un acte de violation de la souveraineté de la RPDC par la République de Corée se reproduit, la RPDC répondra impitoyablement, a prévenu le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le Liban dépose une nouvelle plainte contre Israël auprès du Conseil de sécurité. Le Liban a annoncé avoir déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre les attaques israéliennes continues sur son territoire du 15 au 24 octobre, exhortant la communauté internationale à tenir le régime occupant responsable de ces crimes. Dans un communiqué publié dimanche 27 octobre, le ministère libanais des Affaires étrangères a précisé que la plainte vise à faire condamner la violation du territoire libanais par le régime sioniste, y compris les violations continues de la souveraineté nationale libanaise et les attentes incessantes portées contre la sécurité de la nation libanaise. La plainte a pour but d'obliger le régime sioniste à mettre en œuvre la résolution 1701 pour cesser immédiatement ses hostilités et retirer ses troupes du territoire libanais. Le Liban a affirmé qu'Israël méprise systématiquement le droit international, bafoue les résolutions de l'ONU, ne respecte pas le droit international et se dérobe à la responsabilité de ses actes devant la communauté internationale.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, nous savons tous que les journalistes et le personnel des médias sont protégés et bénéficient donc d'une protection selon des lois internationales. Néanmoins, le régime israélien n'a pas hésité de s'attaquer dans un bombardement aérien un véhicule contenant des journalistes étrangers. Cette année, enfin l'année dernière et jusqu'à maintenant, presque 180 personnes, des journalistes, donc, ont été tuées en Palestine occupée, ce qui est vraiment un crime de guerre. Donc la collection est complète avec cette guerre génocidaire que mène le régime israélien à l'encontre des Palestiniens, mais également à l'encontre donc le Liban. Voilà que s'ajoutent maintenant les journalistes et le personnel des médias. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
De nouvelles victimes ont été recensées au Liban alors qu'Israël poursuit son agression contre le pays. Trois journalistes ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une frappe aérienne israélienne contre leur logement dans la ville de Hasbaya, au sud du Liban. Les avions de chasse israéliens ont également mené au moins une dizaine de raids aériens nocturnes sur les banlieues sud de la capitale Beyrouth. Le bilan des attaques israéliennes au Liban s'élève à près de 2600 morts depuis octobre dernier, date à laquelle des affrontements ont éclaté entre le régime et le mouvement de résistance libanais Hezbollah, parallèlement au génocide des Palestiniens à Gaza. La majorité des victimes au Liban ont été causées par l'intensification des frappes aériennes israéliennes et le lancement d'une invasion terrestre ces dernières semaines.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat des invités, en commençant par Aïssar Midani, intellectuelle et analyste franco-syrienne qui est avec nous depuis Damas. Madame Midani, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour. Et puis, bonjour à votre invité. Je voudrais, par ce crime, en fait, dire Rahmatullah à la Shohada, ces martyrs du mot, de la parole, de l'information, de la vérité. Donc, je voudrais dire effectivement à quel point on est triste de les perdre, parce que ces journalistes, deux journalistes de Al-Mayadeen, un journaliste d'Al-Manar, qui en fait passaient tout leur temps et passent leur temps à faire connaître la vérité sur les combats, effectivement. Le combat de la résistance palestinienne,
absolument, oui.
Le combat de la résistance libanaise, hein, que les Israéliens veulent occulter, et aussi qui transmettait les deux visus, les horreurs israéliennes pratiquées contre la population civile, contre les enfants, contre les vieux, contre les lieux de culte, contre les hôpitaux. D'ailleurs, je voudrais souligner qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils viennent d'envahir l'hôpital Kamal Adwan aussi, dans le nord de Gaza, et ils ont les Israéliens, et ils ont arrêté tout le cadre médical. Donc en fait, criminels, je dirais, de l'État israélien. Les crimes dépassent tout entendement. Ils passent outre toute la réglementation internationale, la réglementation de la guerre, même une éthique minimale. Sur le plan humain, en fait, hein. Ils sont toujours en train de tuer, d'envahir. Il y a en faisant fi de toutes les règles et toutes les lignes rouges.
Oui.
Voudrais dire effectivement, en fait, là, oui. Ils ont bombardé la maison des journalistes, hein, dans le sud du Liban, et ils ont été bombardés pendant leur sommeil. Hein. Et donc, il tue comme ça, à tour de bras. L'objectif, c'est intimider la population, intimider les journalistes, hein, empêcher que la vérité soit connue, en fait, du monde, hein, empêcher aussi même que les Israéliens connaissent ce qu'est leur État, et ce qu'est cette armée aussi, qui est une armée d'échecs, je dirais.
Absolument, oui.
Qui n'arrête pas d'accumuler les échecs les uns sur les autres, hein, et qui n'ont aucune arme pour assouvir leur esprit de vengeance, hein. C'est tuer les civils, tuer les médecins, tuer les journalistes, hein. Empêcher. Il y a deux sortes de tueries d'ailleurs. Il tue aussi par la mort lente, hein, le peuple palestinien en l'empêchant en l'affamant, en empêchant toute aide, hein, à la fois de nourriture et de aide médicale. Et ils ont détruit les hôpitaux, en fait, hier encore. Ils ont détruit les salles d'oxygène, en fait, du dernier hôpital, qui est celui de Kamal Adwan, qui fonctionnait, et de ce fait aussi plusieurs nourrissons ont dépéri par manque d'oxygène, tout simplement. Et en fait, donc, ce sont des crimes qui dépassent vraiment tout entendement, et pour cacher aussi leurs échecs, hein, qui n'arrêtent pas de s'accumuler. Depuis le 7 octobre, échec sur le plan militaire, échec sur le plan du renseignement, échec sur le plan même, échec sur le plan même politique, hein, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, et en fait, en réalité, heureusement qu'ils ont été, en connaissant la vérité, ils ont été complètement isolés du monde.
D'accord, même, oui.
Des peuples dans le,
oui,
monde, et en fait, le signe de tout ça, en fait, c'est quand Netanyahou parlait à l'ONU, en fait, toutes les délégations sont sorties, bien sûr, à part les États-Unis et les délégations de l'OTAN, qui continuent à soutenir cet État génocidaire envers et contre tous, et même contre tout leur peuple aussi.
Oui.
Donc,
d'accord.
Il est important de signaler quand même que même les peuples... le peuple aux États-Unis aussi soutient clairement les Palestiniens, et on va jusqu'à dire la liberté des Gazaouis, et les Gazaouis nous libèrent, et donc Free Palestine et Free Gaza.
Tout à fait.
Voilà.
Oui, merci. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Eli Hatam, maître international et juriste international, qui est avec nous depuis Paris. Monsieur Hatam, bonjour.
Bonjour à vous.
Je lui transmets mon bonjour.
Alors, Madame Midani a très bien décrit la situation déplorable qui se donc que les Palestiniens se trouvent. Bien sûr, on comprend la colère de Madame Aïssar Midani à l'égard de ce qui se passe. Nous déplorons également. Nous sommes tous avec vous, Monsieur Elie Atam. Quelle est votre analyse, je vous prie?
Écoutez, la situation, comme l'a décrite Madame Midani, est catastrophique. Et puis, surtout, il y a plusieurs fronts ou plusieurs pays qui sont touchés par ces agressions israéliennes ou de l'entité plutôt sioniste dans un objectif très clair. C'est celui de procéder au Grand Israël, c'est-à-dire le Eretz Israël, tel est le projet sioniste qui veut s'emparer, bien entendu, d'une grande partie de la Syrie au-delà du Golan. Le sud du Liban, au départ, c'était jusqu'au fleuve du Litani, c'est ce que disait toujours Raymond Hédé, qui était le dirigeant du bloc national libanais, que Dieu ait son âme. Mais aujourd'hui, il s'avère que cette gourmandise de l'entité sioniste va au-delà du fleuve litanier et ça va aller jusqu'au fleuve El Awali. Bien entendu, il y a également le projet de l'extermination de la population palestinienne. Nous l'avons vu, nous avons vu quand même ce génocide dont la population palestinienne est victime, et bien entendu terroriser ceux qui restent, autrement dit ceux qui sont en Cisjordanie. En ce qui concerne les autres pays, nous voyons et nous avons l'impression que cette situation va s'étendre au-delà de la Palestine et du Liban pour toucher non seulement la Syrie mais également la Jordanie. Nous voyons quand même qu'il y a des choses donc, qui se préparent, mais également jusqu'au Nil d'une part donc en Égypte et au-delà de l'autre côté jusqu'à l'Euphrate. Et tout cela se passe avec une sorte d'hypnose et puis d'un travail qui a été longtemps préparé par l'entité sioniste, et la preuve en est là. Quand on nous dit que tout a commencé avec le 7 octobre, c'est totalement faux, parce que le 7 octobre n'est autre qu'une réponse à des représailles à plusieurs 7 octobre qui ont été commis par l'entité sioniste, qui ne fait que mentir et puis qui ne fait que occulter la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Je vous donne un exemple, l'assassinat des journalistes qui se répète, que ça soit dans le sud Liban ou que ça soit en Palestine, et bien avant le 7 octobre. Je vous rappelle que l'assassinat de Madame Chérine Abou Akla, qui était journaliste et qui couvrait les exactions donc des forces militaires de l'entité sioniste le 11 mai 2022, donc bien avant le 7 octobre 2023, et elle a été sauvagement assassiné par ces forces militaires. Aujourd'hui, on veut absolument camoufler cette situation. On veut démontrer à l'opinion publique que tout a commencé le 7 octobre 2023, ce qui est tout à fait faux. Il ne s'agissait que de représailles à des actes odieux. Et quand je pense, vous savez, à l'affaire de Georges Haddad, si mes souvenirs sont bons, qui était révélé dans les médias, comment cet enfant de 15 ans, puisqu'il avait, on les a considérés, bon, c'était une bagarre entre lui et des colons, et comme ils ont considéré que c'est une provocation d'avoir une croix sur la poitrine, il a été brûlé vivant devant ses parents, et il y avait les forces de la police de l'entité sioniste qui ne sont pas intervenues dans cette bagarre. Et les exemples se répètent. Et ce qui prouve en plus que cette affaire était bien antérieure et bien préparée préalablement, vous prenez l'exemple des pagers, c'est-à-dire de ce que l'entité ou les services de l'entité sioniste ont préparé contre la résistance libanaise. Et cette opération a été préparée préalablement, autrement dit à partir de 2021, fin 2021-2022, pour la préparation, comment infiltrer le Hezbollah et comment le convaincre pour aller acheter ces produits, ces pages, par l'intermédiaire d'une société hongroise, et soi-disant que ces pages étaient fabriquées en Taïwan. Donc ces opérations étaient préparées à l'avance parce que l'attaque était bien étudiée, et preuve en est également, c'est ce projet du nouveau Moyen-Orient qui a été brandi par Benjamin Netanyahou à l'Assemblée donc, générale des Nations Unies, bien avant, toujours le 7 octobre, parce qu'il préparait la réalisation donc, de ce projet. Terminer, finir avec les Palestiniens sous prétexte que le Hamas est une organisation terroriste, de la même manière qu'avec le Hezbollah. Mais il faut rappeler une chose, c'est que le Hezbollah, qui soi-disant est considéré comme étant une organisation terroriste, c'est cette organisation, c'est cette résistance qui a lutté contre Daesh et qui a empêché son incursion au Liban et l'émergence de ces, ou le développement donc de ces activités qui menaçaient la paix et la sécurité internationale, tandis que Israël prenait soin de la santé des mercenaires et puis des combattants de cette organisation terroriste. Preuve en est la déclaration de M. Ban Ki-moon en décembre 2015, quand il a demandé à l'entité sioniste d'arrêter son soutien au front al-Nusra. Deuxièmement, et en ce qui concerne en particulier Daesh, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste Moshe Yalon faisait l'éloge d'ailleurs de Daesh et rappelait que effectivement Daesh s'est excusé quand il y a eu une frappe par erreur et qui a touché quelques endroits où se trouvaient les forces armées de l'entité sioniste, en plus dans le Golan syrien. Effectivement, Montassem al-Golani, qui était responsable de cette partie de Daesh qui combattait en Syrie, s'était vite excusé de l'entité sioniste. Et puis, il avait rappelé que, dans le Coran, ne parle qu'il faut s'attaquer à l'entité sioniste ou à Israël. Donc, pour vous dire que nous vivons des moments qui sont très difficiles dans cet objectif de la réalisation de ce projet de Eretz Israël, c'est-à-dire le Grand Israël, avec la complicité, je dirais, des sociétés ou plutôt des États occidentaux, de certains États occidentaux. Il ne faut pas généraliser, et j'ai l'impression que la France est en train de faire un pas en arrière, parce qu'il s'agit quand même d'actes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, dont ces États sont responsables, en particulier les États-Unis, qui ont cautionné et qui ont été complices de ces actes en armant les forces militaires l'entité sioniste. Et d'ailleurs, ce recul de la France, nous le constatons avec la déclaration du président français Macron d'arrêter d'envoyer des armes à cette entité qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité, un génocide contre la population palestinienne.
Absolument.
Et des crimes de guerre contre le Liban, parce qu'il faut rappeler, contrairement au Hezbollah, donc à la résistance libanaise, qui ne frappe que des positions militaires en Palestine occupée, c'est-à-dire de l'entité sioniste, les forces militaires de l'entité sioniste s'attaquent aux civils au Liban, comme l'a déclaré il y a quelques jours le président Macron à Paris.
Absolument. On ne peut être que d'accord avec vous, maître Eli Hatam. Alors, madame Aïssa Armidani, évidemment, on fait que observer ce qui se passe. Si on devait citer les crimes commis par le régime israélien à l'encontre des Palestiniens et des Libanais, on en aura pour jusqu'à demain. Alors, est-ce que vous croyez que le régime israélien arrivera à ses fins néfastes ou bien la résistance prendra le dessous?
Oh, certainement pas, il n'arrivera pas à ses fins, puisque la résistance existe et elle en remporte des grandes victoires. Elle est très importante aujourd'hui. Elle assène des coups terribles à l'armée israélienne au sud du Liban, sur plusieurs axes. Même la résistance palestinienne aussi continue à asséner des coups à l'armée israélienne à Gaza, et aussi bien dans le nord que dans le sud. Et de toute façon, c'est en quelque sorte la raison pour laquelle Ils veulent absolument occulter l'information. Les Israéliens veulent absolument que leur population et le monde ne sachent pas qu'ils sont en échec total, qu'ils prennent des coups à travers la figure, que leur industrie de l'armement, qui sont les fleurons de leur production, sont complètement défectueux et défaillants, et ils ne résistent pas au coup de la résistance palestinienne comme la résistance libanaise. Et donc tout cela est très très important et qui prédit que de toute manière, le peuple palestinien, le peuple libanais, le front de la résistance triomphera. Je voudrais faire quand même une petite remarque sur ce qu'ils ont appelé aujourd'hui l'attaque contre l'Iran, qui était complètement aussi ils ont voulu et ils ont parlé en grande parole, mais en réalité c'est un coup qui n'a pas pu résister à toutes les défenses aériennes iraniennes. Donc il est important de voir, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit effectivement ces attaques sauvages et barbares contre la population, contre les journalistes, contre tout le monde, tous les hôpitaux, les lieux de culte, les centres d'hébergement. Plusieurs fois, ils ont brûlé vifs des personnes déplacées qui sont sous les tentes. Donc tout cela vise à faire peur et à faire partir la population palestinienne. Et bien, les Palestiniens continuent d'une part à affirmer que de toute façon, ils ne partiront pas, qu'ils reconstruiront Gaza et qu'ils reconstruiront leur pays et qu'ils triompheront. La résistance libanaise continue aussi, et le peuple libanais continue aussi à être très solidaire de la résistance, en fait, comme la résistance palestinienne aussi. Et aujourd'hui, la résistance irakienne et yéménite affluent aussi soutiennent la résistance, soutiennent par le feu et soutiennent directement sur le champ la résistance libanaise et la résistance palestinienne. Donc un État fantoche comme celui d'Israël, qui a une armée qui ne vit que sous perfusion américaine et sous perfusion européenne, en fait, et qui n'a plus, où la population est aussi déplacée, exilée. On voit aujourd'hui qu'il y a des millions qui partent et qui ne reviendront plus, qui partent dans l'autre sens. Donc tout ceci, avec toute la catastrophe sur le plan économique qu'ils ont essuyé depuis le 7 octobre, donc il ne tiendra plus et par sa pratique, il court à sa fin.
Oui, Eli Hatam, est-ce que vous voulez bien conclure, je vous prie, le débat d'aujourd'hui?
Ben, écoutez, comment voulez-vous que nous puissions conclure avec cette situation dramatique et puis ce sentiment que nous approchons vers une troisième guerre mondiale? Ce que j'espère, c'est que toutes les parties de cette région du Proche et du Moyen-Orient puissent comprendre qu'il faut négocier, qu'il faut passer par la voie de la diplomatie et non pas par celle des armes. Nous avons assisté hier à une nouvelle agression de la part de l'entité sioniste à l'encontre de l'Iran. L'Iran avait montré déjà à plusieurs reprises une patience avant de riposter une seule fois véritablement, qui était la dernière fois, aux différentes agressions de la part de l'entité sioniste. J'espère que cette fois-ci, nous allons aboutir à une solution pacifique de l'ensemble de ces questions, mais cela va dépendre également de la volonté de plusieurs acteurs qui sont sur le terrain. Il n'y a pas simplement Israël et les États-Unis, mais il y a également la Russie, il y a également la Chine, bien entendu, l'Iran, et l'ensemble des pays qui font partie des BRICS et qui ont une responsabilité aujourd'hui de prendre en main la société internationale et faire cesser cette hégémonie américaine sur le monde et qui a sévi surtout à partir de 1990.
Maître Ali Hatam, juriste international, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Mme Aïssa Midani qui nous a également accompagnés depuis Damas et d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
L'artisanat persan. La civilisation millénaire persane nous a légué un héritage culturel et artistique, riche dans sa diversité et dans sa rareté, et qui constitue aujourd'hui l'identité régionale et historique des habitants de cette vaste contrée orientale. Une partie essentielle de ce legs culturel, aujourd'hui protégé des ravages du temps par sa perpétuation, est constituée par l'art ou plutôt par l'artisanat iranien. L'artisanat doit aujourd'hui son importance à son rôle dans la sauvegarde des pratiques artistiques autochtones et à la sauvegarde de la culture des peuples indigènes, peu modifiée par rapport à l'évolution rapide de la vie urbaine. Il incarne aussi le goût et la finesse artistique, en l'occurrence iranienne, grâce à son caractère manuel et à la délicatesse des réalisations auxquelles il donne lieu. Si l'argile constitue la matière première des objets faits en pâte argileuse, la céramique doit cependant son éclosion, sa renommée et sa survivance aux travaux des artisans qui l'ont ornée avec des couleurs et des dessins splendides. Au début, les objets faits à partir d'argile servaient uniquement à subvenir aux besoins quotidiens des premiers hommes, qui s'en servaient pour y mettre leur nourriture. Peu à peu, les progrès survenus dans le domaine de l'art contribuèrent au développement de l'ornement des objets en pâte argileuse, de différents dessins et gravures. La céramique sous les Sassanides. Si la période sassanide est connue pour les progrès culturels et scientifiques qu'elle engendra, la céramique n'est connue ni évolution ni innovation. Les objets en pâte argileuse de l'ère sassanide étaient généralement destinés à un usage pratique, d'où le grand nombre de céramiques telles que bols, pots, tonneaux et bidons. On trouvait à Kangavar, Torang Tapé, Kerman ou Dashte Gorgan. Ces objets, avec des bords repliés sur lesquels étaient gravés des mots en pahlavi, étaient fabriqués avec de l'argile. Il a mentionné que ces objets n'étaient pas vernis. Selon Mahmoud Maheronarch, l'art en général et plus particulièrement l'architecture évoluèrent sous les Sassanides. Les palais du Fars, Kerman Shah et de la Mésopotamie, dont l'architecture peut rivaliser avec celle des Achéménides, date de cette période. Sous les Sassanides, l'art, en avance sur son temps, dépassa les frontières de l'Iran pour influencer les pays voisins. À noter que la ciselure et en général le travail sur l'argent avaient éclipsé l'art de la céramique. Cependant, les Sassanides nous ont laissé des céramiques et des céramiques vernies. Les artisans recouvraient les reliefs de plâtre employés dans les bâtiments avec une couche formée d'un mélange de gomme très guéquante, d'amidon et de lait afin de garantir leur résistance. Les Sassanides fabriquaient des objets en pâte argileuse avec des têtes d'animaux sacrés, en utilisant des techniques propres à eux et différentes de celles utilisées par les Achéménides ou les Arsacides. Durant cette période, la civilisation byzantine s'est aussi beaucoup inspirée des Iraniens dans le domaine du textile et de la céramique, contribuant par là à la survivance de ces arts. Même si l'éclosion de l'art de la ciselure avait quelque peu déclassé la céramique, cependant, les hommes de classe moyenne utilisaient encore des objets en pâte argileuse pour leurs besoins journaliers. Le commencement du règne des Sassanides, avec la montée au pouvoir d'Artaxerxès Ier, le développement de la culture chez les Iraniens, puis ensuite avec l'arrivée de l'islam, incitèrent les artisans à se tourner vers les arts et artisanats traditionnels. Les planchers des palais et des temples restés de cette époque à Firouzabad et à Tsipvan étaient ainsi recouverts de céramique. Avant les Sassanides, le vernis n'était pas de bonne qualité et s'effaçait facilement. Ainsi, les artisans iraniens ne pouvaient donc pas aisément orner les objets qu'ils fabriquaient. C'est donc vers la fin du règne des Sassanides que l'emploi du vernis se généralisa sur les objets fabriqués en argile. À ce propos, de nombreux objets en pâte argileuse et enduits de vernis datant du Xe siècle, ont été découverts à Neychâbour. Un document incontestable sur la manière de faire cuire les objets nous informe que les fours étaient situés à une hauteur d'environ 2,50 mètres du sol. À l'intérieur des fours se trouvaient rangées des niches sur lesquelles on plaçait un grand nombre de pots de taille moyenne. Les potiers allumaient les fours pendant 8 heures et ne désenfournaient les pots qu'après 48 heures, leur laissant ainsi suffisamment de temps pour absorber les couleurs vertes et bleues. On se servait de bois en tant que combustible. Après la révolution islamique, la reprise de nombreuses céramiques antiques iraniennes, illégalement détenues par d'autres pays, a permis à l'Iran de constituer une magnifique collection de céramiques, dont une grande part est conservée au musée Irani Bostan.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9,